Oh, yes. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring, Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity.
Varé, clairement l'un des personnages les plus sympathiques de l'univers d'Elden Ring, est le premier PNJ que vous allez croiser au début de votre aventure, si on exclut la cinématique d'introduction avec Melina. Vous êtes peut-être plusieurs à avoir tué ce personnage, par méfiance ou par souvenir de ce que pouvait être Mephistopheles dans Demon's Souls, ou Lautrec de Karim dans Dark Souls. Cela aurait été une erreur tant ce personnage a de choses à nous apprendre. Varé, Mog, les doigts sanglants, les réprouvés, autant de thèmes que je vais aborder dans cette vidéo. Hello à tous, c'est Ludic et bienvenue pour l'épisode 7 du lore d'Elden Ring. Je sais que vous vous attendez à ce que je vous dise qu'on ne peut parler d'un personnage comme Mog sans présenter auparavant les divinités extérieures, ou Outer Gods en anglais. Ne vous inquiétez pas, nous allons y venir, mais pas de suite. Je voulais commencer ce récit en vous parlant d'abord de la notion de réprouvé, qui touche directement le personnage de Mog. C'est une notion que j'avais rapidement évoquée dans ma toute première vidéo, et à l'époque je m'étais copieusement trompé, puisque j'estimais que les réprouvés étaient uniquement issus de la lignée de Godfrey et touchaient ceux qui avaient été reniés par la grâce après sa répudiation. C'est en réalité plus compliqué que cela. Le statut de réprouvé peut toucher n'importe qui, et il est important de dissocier les réprouvés de base, comme ceux que vous pouvez croiser errant dans la prison souterraine de Leyndell, des réprouvés issus de lignées royales, comme Mog ou Morgoth. D'après les descriptions des poupées de réprouvés et poupées royales de réprouvés, on apprend que les réprouvés de base voient leurs cornes excisées dès la naissance, ce qui n'est pas le cas pour les réprouvés de lignée royale, bien qu'ils soient quand même cachés comme les autres, dans la prison des réprouvés sous Leyndell, comme en attestent les entraves de Mog, conçues pour un individu destiné à rester enfermé à jamais. Mais d'où viennent ces cornes de réprouvés et pourquoi ? Je pensais initialement que c'était lié à la disparition de la grâce, et je n'étais pas forcément très loin de la vérité. Les réprouvés sont en réalité une manifestation du creuset primordial. Comme l'explique très bien Vaatividia dans l'une de ses vidéos, le creuset primordial peut être considéré comme un ancêtre de l'arbre-monde, et à l'inverse, l'arbre-monde peut être vu comme une engeance, une anomalie issue du creuset qui aurait gagné son autonomie. Pour faire une analogie assez simple, imaginez un arbre duquel tombe une branche, cette branche donnant à son tour un nouvel arbre. Et bien cette branche, c'est l'arbre-monde, et l'arbre de base, c'est le creuset. Tout au long de notre histoire, le creuset primordial tente donc de reprendre le dessus sur l'arbre-monde, sentant que son influence commence à péricliter après l'apparition des sans-éclats. Et les réprouvés sont donc une tentative, une manifestation du creuset, pour reprendre le pouvoir. C'est en ce sens que l'Ordre d'Or tient tant à cacher les réprouvés, de la même façon qu'ils ont tenté de cacher l'existence des Nocriens. Le creuset primordial, origine de toute vie, était à l'époque très respecté, en témoignent les chevaliers du creuset, leur puissance et le respect qu'ils inspiraient. Mais à l'apparition de l'arbre-monde et de la civilisation, telle qu'on la connaît aujourd'hui, tout cela a très rapidement changé, et les réprouvés sont aujourd'hui rejetés au même titre que les sans-éclats ou les Nocriens. Cependant, l'Ordre d'Or, toujours plus vénal, n'avait rien contre utiliser les réprouvés pour la guerre, et c'est en ce sens qu'ont été créés les fendoirs de réprouvés, des armes maudites destinées à exploiter leur force brute, mais qui ne pourraient pas se retourner contre leur maître. On peut imaginer que certains d'entre eux ont tenté de se rebeller, et c'est pour cela qu'ont été lancées des chasses aux réprouvés, le plus célèbre des chasseurs, portant le nom de Rollo, dont vous aurez l'occasion de récupérer les cendres de guerre, et qui est cet ennemi possédant le même pattern que le démon Capra dans Dark Souls. Il est intéressant de voir que certaines personnes pensent le coprophage comme étant également un réprouvé, alors que ce n'est selon moi pas du tout le cas. J'ai eu l'occasion de le préciser dans ma vidéo sur le bastion, le coprophage est un sans-éclat ayant développé une admiration pour les réprouvés, et c'est en ce sens qu'il a tenté de recréer cette maladie sous la forme de la malédiction du semi.
Thy kind are all of a piece. Pillagers emboldened by the flame of ambition. Have it writ upon thy meager grave.
Maintenant que la notion de réprouvé a été correctement présentée, nous pouvons passer sur le personnage de Mog et Morgoth, puisqu'ils sont tous les deux indissociables. Enfants directs de Marika et Godfrey, tous deux réprouvés de naissance, mais avec une vision de ce statut de réprouvé totalement différente. Morgoth, de son côté, a décidé de totalement renier son sang de réprouvé, et de se mettre au service de l'Arbre-Monde et de sa protection, là où Mog a lui totalement décidé de l'embrasser. On comprend donc la différence d'apparence entre les deux frères, les cornes de Morgoth ayant un aspect asymétrique, là où celles de Mog ont parfaitement poussé, lui donnant une apparence démoniaque, proche de celle que l'on peut voir sur le homme des Chevaliers du Creuset. C'est cette version de Mog le réprouvé que l'on pourra affronter dans les tréfonds de la prison sous Lendel. Vous vous êtes certainement demandé alors comment Mog pouvait être à la fois présent sous cette forme et également dans le mausolée de la dynastie Mogwin sous la forme du Seigneur de Sang. Pour moi, l'explication est simple. Tout comme son frère Morgoth avec Margit, Mog a la possibilité de générer des projections de lui-même, et il aurait alors laissé cette version de lui devant le passage secret de la flamme exaltée pour empêcher quiconque d'y accéder et de venir bousculer sa future et potentielle hégémonie. Car en effet, Mog décida de chercher plus loin que son statut de réprouvé et fit un jour la rencontre d'une divinité extérieure, celle liée au sang, du nom de Mère Informe ou Mère de la Vérité. Rien ne dit si c'est la Mère Informe qui est venue au contact de Mog ou l'inverse. Rien ne nous dit non plus si son arme, la lance sacrée de Mogwin, lui a été fournie par la Mère Informe après leur rencontre, ou si c'est justement cette arme qui a permis à Mog d'entrer en contact avec elle. Quoi qu'il en soit, la divinité extérieure vit en Mog un outil potentiel pour assouvir sa soif de blessures et de plaies béantes, et elle fit de lui le Seigneur du Sang. C'est ce pouvoir auquel Mog fera appel lors de votre combat contre lui, s'accrochant au corps de la Mère Informe pour vous jeter ses effusions sanguines. Lors de la deuxième partie du combat, Mog ira presque jusqu'à devenir la divinité elle-même, des ailes lui poussant dans le dos, à la manière de Malenia qui devint la déesse de la putréfaction. Il est intéressant de noter que c'est à la suite d'un décompte en latin, allant de 3 à 0, tres, duo, unes, nihil, que Mog déclenchera son véritable pouvoir. Néanmoins, il existe une différence majeure entre Malenia et Mog. Ce dernier n'est pas un empyréen. Il n'est pas digne de recevoir en lui le pouvoir d'une divinité extérieure. Mog imagina alors un plan retors pour assouvir ses ambitions, mais ça nous y reviendrons un peu plus tard. Pour asseoir son pouvoir et prêcher la bonne parole de la Mère Informe, Mog le Seigneur du Sang avait besoin d'une armée, et c'est dans cette optique que furent créés les Doigts Sanglants, une entité dont vous avez à peine connaissance alors que c'est certainement celle que vous allez le plus souvent croiser au cours de votre aventure. Les Doigts Sanglants sont en effet assez nombreux, on peut citer pêle-mêle les noms de Eleonara, Nerijus, Okina ou encore Yura. Il s'agit pour la plupart de sans-éclats ayant abandonné toute humanité pour se livrer à la chasse de leurs congénères à leur soif de sang. Ils ont alors rejoint Mog pour assouvir les besoins de sa divinité, la mère informe. La quête de Yura tourne autour de ce basculement, lui qui a réussi à échapper à l'influence des doigts sanglants et souhaite aider sa bien-aimée Eleonara à faire de même. L'histoire de l'épéiste Okina est également très intéressante et nous est racontée par le biais de son katana la rivière sanglante. Mog décela en elle sa folie et sa puissance, et lui offra la vie d'un démon dont la soif de sang serait toujours rassasiée. Les doigts sanglants sont également un moyen habile, de la part des scénaristes, de donner du corps et une explication à l'aspect multijoueur du jeu, puisque dès l'instant où vous envahissez le monde d'un autre joueur, vous êtes considéré comme un doigt sanglant. C'est d'ailleurs un de ces doigts qu'il vous faudra consommer pour pouvoir envahir. Mais le meilleur représentant des doigts sanglants est celui qui a introduit cette vidéo, un personnage mystérieux aux intentions douteuses, Varé le blême.
Ah, there you are. You claimed a great room and had your audience with the two fingers at the round table hole. What was your impression? Aha. Your intuition serves you well.
Varé est le premier personnage que vous croisez en arrivant en Entreterre. Il se moque de vous car vous n'avez pas de servante et vous invite à aller affronter les demi-dieux pour gagner votre place auprès de la table ronde. Varé fait partie des Masques Blancs, une caste de médecins de guerre qui ont, semble-t-il, été approchés et recrutés par Mog à la fin des différents conflits ayant parsemé l'histoire de l'Entreterre. Varé a en réalité une idée derrière la tête, faire de vous un doigt sanglant et vous accorder audience auprès de son seigneur Mog. Ce dernier lui a promis un immense pouvoir, et c'est en ce sens qu'il est prêt à tout pour le satisfaire. Si vous accédez à sa requête, d'envahir le monde de trois joueurs différents, il vous remettra la faveur de Mog, un foulard qu'il vous faudra imbiber du sang d'une servante. Une fois cette action effectuée, Varé fera alors de vous un véritable doigt sanglant, et vous obtiendrez alors une invitation à rejoindre le palais Mogwin sans avoir à passer par les champs enneigés.
Oh, good heavens. Clench your teeth or something.
Le palais Mogwin, lieu de désolation où le sang déborde de toutes parts, où Mog et ses partisans les doigts sanglants se rassemblent. Il est très intéressant de s'arrêter sur le palais et ses environs pour en apprendre davantage. On y trouve des oiseaux décharnés, les mêmes que l'on retrouve en Kaelid. Il est amusant d'ailleurs que le sang et la putréfaction écarlate semblent présenter des afflictions similaires dans Elden Ring, supposant que les deux divinités extérieures pourraient avoir un lien. Gardez cela dans un coin de votre tête. On y croisera également des disciples de Mogwin, à la tenue caractéristique, et des albinoriques à la peau rouge sang. Rien de surprenant, quand on sait que le palais se trouve juste au-dessus des cités éternelles, lieu de naissance des albinoriques. Vous pourrez y ramasser des roses de sang, les mêmes roses de sang qui parsèment le bouquet de Varé, son arme. Vous croiserez d'ailleurs Varé une dernière fois au détour d'un couloir. Vous pourrez alors l'affronter et mettre fin à ses jours. Il rendra son dernier souffle, dépité de ne pas avoir réussi à obtenir le pouvoir que Mog lui promettait.
Please, answer me, luminary Mog. Bless the Mogwin dynasty. With love.
Vous y verrez aussi d'autres serviteurs décharnés, priants, qui semblent avoir été engloutis par le sang de la mère informe. Car oui, à l'image de la flamme exaltée qui peut rendre fous les esprits trop faibles, il faut une certaine puissance pour contrôler le pouvoir de la mère informe. D'ailleurs, Varé est le seul médecin des Masques Blancs à avoir réussi à le maîtriser. C'est donc des esprits terrassés par le sang de la mère informe que vous voyez errer dans la zone, potentiellement des doigts sanglants, qui n'ont pas encaissé le choc. Mais il est tout aussi intéressant de s'arrêter sur les nombreuses stèles parsemant l'endroit. On en trouve de diverses factures, l'une semblant représenter un taureau, avec le blason de Mog certainement, une autre avec le trident, la fameuse lance sacrée de Mogwin. Mais c'est une autre stèle qui a attiré mon attention, une stèle qui semble raconter une histoire. On y voit des pèlerins se rassemblant autour d'une tablette, puis faisant pousser des arbres. Encore plus mystérieuse est cette statue devant laquelle les adeptes de Mog semblent se prosterner. Qui peut bien représenter cette statue? C'est un mystère qui m'a occupé pendant de longues heures. Mais vous connaissez la théorie du rasoir d'Occam, la solution la plus simple est souvent la meilleure. Je pense que cette statue représente Mikaela. Impossible, me direz-vous, Mikaela a une apparence jeune et ne peut pas avoir de barbe. Je vous inviterai alors à regarder plus précisément. Ce n'est pas une barbe que porte ce personnage, mais les branches d'un arbre qui tombe jusqu'au sol. Ceci est encore plus visible dans l'arène de Mog, où se trouve Mikaela, dans laquelle les statues sont là carrément dénuées de pieds. Cette statue se trouve d'ailleurs un peu partout en Entreterre d'après mes recherches, au lac Putride ou encore en Liurnia. Et pour rappel, avant l'éclatement, Mikaela était adulée et considérée comme un dieu, le futur Lord d'Elden. Qui d'autre qu'un empyréen qu'on a arraché à son arbre sacré pourrait ressembler à ça? Car oui, je me suis arrêté tout à l'heure, mais dans l'optique de délivrer le véritable pouvoir de la mère informe, Mog a décidé d'enlever Mikaela et d'en faire son consort, ce dernier refusant de répondre à son appel. Mikaela étant un empyréen, c'était le seul moyen de vraiment libérer le pouvoir de la divinité extérieure. Ce qui nous amène maintenant à discuter des liens possibles entre Mog et Radahn. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté de cette information. Le palais Mogwin dans lequel se trouve Mog et le cocon de Mikaela se trouve juste en dessous de l'arène où se situe Radahn. Alors, simple coïncidence ou pas? On peut en effet imaginer que Mog et Radahn entretenaient un lien. Peut-être même que Radahn a lui-même enlevé Mikaela pour le livrer à Mog, ce qui aurait entraîné la fureur de Malenia envers lui. On peut aussi faire l'hypothèse que Mog agit seul et qu'il a volontairement placé son palais sous l'arène de Radahn pour créer un conflit entre ce dernier et Malenia dans l'optique de se débarrasser de l'Empyréenne. Je ne suis pas forcément un grand fan de ces théories, mais je souhaitais tout de même l'évoquer car je sais que vous m'en auriez parlé en commentaire et là-dessus je vous laisse donc entièrement à vos interprétations. Je voudrais pour finir cette vidéo entamer une petite digression au sujet de Mikaela. Si on considère que c'est bien lui qui est représenté sur cette statue, on peut alors se demander quelle est la tablette de pierre qu'il semble serrer contre lui. Se pourrait-il que ce soit la même tablette de pierre que celle que l'on aperçoit sur les stèles mentionnées auparavant? Autre élément intéressant, si on regarde en haut de cette stèle, on aperçoit un symbole qui ressemble étrangement aux branches envoûtantes dont Mikaela se servait pour justement envoûter d'autres entités. Grâce à une chaîne YouTube fantastique du nom de Zully the Witch, que je vous invite fortement à suivre, on apprend que les géants seraient justement contrôlés par des tablettes de pierre. Alors quand on sait que Mikaela est spécialisée dans le contrôle et l'envoûtement, ne peut-on pas imaginer qu'il serait à l'origine de ces fameuses tablettes de pierre? Je vais maintenant aller au bout de cette théorie. Et si Mikaela avait envoûté Mog pour qu'il l'enlève? En gros, et si Mikaela s'était laissé enlever volontairement? Le sang de la mère informe et la putréfaction écarlate ont clairement une ressemblance. Mikaela aurait pu y voir un potentiel moyen de sauver sa sœur Malenia, et il aurait alors charmé Mog pour avoir accès au pouvoir de cette divinité. J'ai très hâte d'avoir vos retours sur cette théorie en commentaire. Le personnage de Mikaela est passionnant et je pense que l'on n'a même pas entreaperçu un quart de son histoire. Alors j'ai très hâte de vous en reparler dans une future vidéo. Merci en tout cas si vous avez suivi celle-ci jusqu'au bout, ça a été un véritable plaisir de le faire et de vous présenter ces nouvelles théories. Si ça vous a plu, partager, liker, et je n'en parle pas souvent, mais vous avez maintenant la possibilité de soutenir mon travail via des plateformes de crowdfunding comme Utip ou Streamlabs, ce qui permettra à la chaîne de vivre et de rester indépendante. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao.
Dearest Mikala, you must abide alone a while. Welcome, honored guest, to the birthplace of our dynasty!